Bonsoir, Journée internationale de l'aide humanitaire. Au moins 19 millions de personnes sont en insécurité alimentaire et plus de 5 millions sont déplacées. Chiffre donné par le coordonnateur de l'action humanitaire en RDC. Selon lui, ces personnes ont besoin d'une assistance humanitaire pour pouvoir vivre dignement. Malheureusement, la mobilisation de l'aide en faveur de la RDC n'est pas toujours facile dans un contexte de crise qui dure depuis plus de 2 décennies, affirme-t-il. Que faire pour assister efficacement les personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en RDC? Comment créer des conditions pour éviter ces crises humanitaires? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 19 août 2020. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Steve Mbikayi, ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Paul Mouindo, député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Il est le président du caucus des députés du Grand Nord. Il est également cadre du parti politique RCD-KML. Monsieur Mouindo, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Et Dr. Augustin Kapika, directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, une ONG qui collabore avec le HCR dans le domaine humanitaire, dans le Grand Équateur, l'ex-Bondoundou et l'espace Kasaï. Dr. Kapika, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Evariste Kabadia Kananga au Kasaï central. L'État congolais doit valoriser le secteur agricole en mettant en valeur nos terres afin de subvenir aux besoins alimentaires des Congolais au lieu de se baser uniquement sur ce qui est politique. La bonne assistance humanitaire n'est pas la distribution des vivres, mais doter la population des intrants agricoles pour la rendre autonome. Merci de nous suivre à Kananga dans la province du Kasaï central sur la 93. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit, en RDC, au moins 19 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Plus de 5 millions sont déplacées, c'est-à-dire des personnes qui fuient leur domicile pour se mettre à l'abri du danger ailleurs. Selon le coordonnateur de l'action humanitaire en RDC, ces personnes ont besoin d'une assistance humanitaire pour pouvoir vivre dignement. Mais la mobilisation de l'aide en faveur de la RDC n'est pas toujours facile dans un contexte de crise qui dure depuis plus de 2 décennies. Rosalie Zawadi nous en dit plus.
Faire comprendre aux donateurs qu'en RDC sévissent plusieurs crises humanitaires et non une seule, c'est le travail des acteurs humanitaires qui s'activent à attirer l'attention du monde sur ce qui se passe ici depuis plus de 2 décennies maintenant. Objectif, selon Diego Soria, coordonnateur humanitaire ad intérim en RDC, mobiliser des fonds en faveur des millions de personnes en situation difficile.
En réalité, nous on essaie d'abord d'expliquer que ce n'est pas une situation, mais que c'est une multitude de situations. Chacune de ces crises ont des dynamiques différentes. Certaines d'entre elles sont très récentes, d'autres sont plus anciennes. On essaie d'expliquer que derrière ces crises, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui souffrent et que cette souffrance est énorme. Et non seulement le nombre de personnes qui souffrent, mais la façon dont ils souffrent, le degré de privation.
Diego Soria ajoute que l'année dernière, par exemple, les plans de réponse humanitaire en RDC a reçu près de 800 millions de dollars en dehors de la réponse Ebola. Il remercie les différents donateurs et surtout la population congolaise, la première à intervenir sur terrain. Sans moyens, en effet, nombreuses sont des familles locales qui partagent les peu qu'elles ont avec leurs frères déplacés. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Capi.
Merci Rosalie Zawadi pour ce reportage. Steve Mbikayi, je rappelle que vous êtes ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. Au moins 19 millions de personnes sont en insécurité alimentaire et plus de 5 millions sont déplacées en RDC. Est-ce que vous confirmez ces chiffres, monsieur le ministre?
Oui, je confirme les chiffres parce que ce sont les chiffres qui sont souvent validés dans un cadre de concertation humanitaire que nous avons au niveau national avec l'ensemble des agences des Nations Unies, mais aussi avec différents acteurs humanitaires dans notre pays. On a tenu ce cas de concertation nationale humanitaire au début de cette année pour valider ces chiffres. qui sont d'abord validés au niveau des provinces et après, dans ces cadres, on se met ensemble pour les valider. Donc, je confirme ça.
Mais qu'est-ce qui explique ces chiffres, monsieur le ministre? Il y a Oxfam, cette ONG internationale, qui a, dans un communiqué publié aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire, ce communiqué indique que la RDC abrite aujourd'hui la plus grande population de déplacés internes en Afrique.
Oui, il est bien clair, c'est à cause de toutes ces crises récurrentes dans notre pays, surtout l'existence de plusieurs groupes armés, essentiellement dans l'est de notre pays. Ça fait que beaucoup de gens fuient leur résidence pour aller se réfugier ailleurs. Et là où ils partent, ils n'ont pas les moyens de faire des champs ou de travailler autrement pour survivre. Donc, ce qui fait que du jour au jour, ce nombre augmente sans oublier aussi d'autres catastrophes naturelles comme les inondations et autres. Alors quand les gens font plusieurs mois sans travailler, donc leur champ détruit, ainsi de suite, c'est là qu'est normal qu'on puisse avoir un grand chiffre de gens qui n'ont pas de quoi manger, qui ont besoin d'une assistance alimentaire.
Quelles sont les actions que le gouvernement congolais mène pour aider ces personnes en insécurité alimentaire? On a suivi le coordonnateur de l'action humanitaire en RDC qui remercie les différents donateurs, mais surtout la population congolaise, la première à intervenir sur terrain sans moyens. Nombreuses sont des familles locales qui partagent le peu qu'elles ont avec leurs frères déplacés. Qu'est-ce que le gouvernement fait?
Non, le gouvernement n'est pas insensible. Le gouvernement a été préoccupé par cette situation, mais les moyens ne sont pas toujours suffisants pour pouvoir arriver à satisfaire à leurs besoins. Et c'est pour cela qu'en tant qu'un État membre des Nations Unies, nous avons droit aussi à cette assistance alimentaire, à cette aide qui intervient dans les cadres des agences des Nations Unies. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'au mois de février passé, j'ai été rendu à Genève, aux Nations Unies pour faire, n'est-ce pas, les plaidoyers en faveur de tout ce qu'on a ici comme partenaire humanitaire pour qu'ils puissent avoir assez de moyens pour intervenir et nous accompagner. Mais nous sommes les premiers responsables en tant que gouvernement pour assister notre population. Mais vous savez aussi que nos finances ont des problèmes. Le budget qu'on a voté cette année a été revu notamment à la baisse, ce qui fait que les moyens ne sont pas tous disponibles à tout moment. Mais le gouvernement a l'évolution de pouvoir mettre sur pied ce que nous avons appelé caravane humanitaire, qui régulièrement doit faire le tour des provinces pour assister tant soit peu les compatriotes en difficulté. Cette caravane, donc au mois de mars passé, a été dans des provinces de Maniema, province de Sud-Kivu. Nous avons été dans différentes entités pour aider nos compatriotes. Maintenant là, il y a encore une phase qui est prévue de la caravane humanitaire qui va nous conduire en Ituri, Nord Kivu, encore une partie de Sud Kivu pour pouvoir intervenir. Donc nous le faisons avec les moyens du bord dont dispose le gouvernement.
Monsieur le ministre, vous vous plaignez des moyens qui ne sont pas suffisants. Est-ce que ça veut dire que tous ces déplacés ne vont pas bénéficier de l'aide du gouvernement congolais?
Non, je vous dis que nous avons mis en place cette caravane humanitaire qui passe de temps à autre pour intervenir. Au moment où je vous parle, je suis présentement à Goma, où c'est venu, n'est-ce pas, présider la journée d'activité concernant donc l'aide humanitaire, donc la journée mondiale. Et sous peu, le dossier est en cours dans les circuits financiers. Dès que les moyens sont disponibles, eh bien, on va venir aussi revenir ici au Nord Kivu pour assister les sinistrés, les déplacés, et nous irons aussi ailleurs pour le faire. Donc la volonté est là, mais les moyens sont maigres, pas seulement pour action humanitaire, mais dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc les moyens que nous avons ne permettent pas qu'on puisse satisfaire à 100% donc aux besoins, mais nous sommes en train d'y travailler et que les moyens, quand ça sort, nous allons assister les compatriotes. Voilà.
Alors Kivu a béni précisément plus de 3000 ménages et déplacés de Kainama sans assistance humanitaire. C'est la société civile de ce groupement qui lance ces SOS. Est-ce que vous êtes au courant de la situation qui se passe de Kainama?
Je suis bien au courant de la situation. J'ai même programmé que dès que les moyens sont là, on va commencer notamment par eux. C'est-à-dire, étant donné que les moyens sont maigres, eh bien, on voit le degré de vulnérabilité pour intervenir. Donc, on a essayé d'avoir les plus vulnérables que nous avons, tenant compte de ce qui est disponible. Et au fur et à mesure que les moyens viennent, on peut continuer à citer les autres.
Paul Mouindo, vous êtes député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Vous êtes président du caucus des députés du Grand Nord, également cadre du parti politique RCD-KML. 19 millions, au moins 19 millions de personnes en insécurité alimentaire en RDC et plus de 5 millions de déplacés. Comment vous analysez cette situation?
Oui, merci bien madame Kelly. Vous comprenez donc que avec les chiffres tels que présentés par les responsables que nous avons tous écoutés, ce sont des chiffres totalement effrayants. Vous imaginez si nous sommes à 64 millions d'habitants, ou disons 60 millions d'habitants, comme il n'y a jamais eu de statistiques fiables, supposons 60 millions et près de 20 millions d'habitants sont à besoin humanitaire extrême, et vous avez 40 millions d'habitants qui vivent avec un revenu de moins de 1 dollar le jour. Vous avez 5 millions de déplacés, et donc vous comprenez que nous sommes la RDC traverse une situation terrible à terme d'abord des besoins de subsistance, et puis au-delà de ces besoins, des manques de ces besoins de subsistance, nous avons également les besoins humanitaires pour ceux-là qui sont victimes soit de l'insécurité, soit victimes des catastrophes humanitaires, et qui maintenant, au regard de la journée d'aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir jusqu'à quel chiffre voudrions-nous observer ces gens-là s'augmenter, parce qu'ils sont à 19 millions. Aujourd'hui, nous venons de prendre la première place sur le plan africain à terme de déplacés internes, mais aussi à terme des populations à besoin humanitaire. C'est une situation grave. C'est une situation qui illustre que la gestion du pays pose problème. C'est une situation qui démontre qu'au-delà, n'est-ce pas, des bons discours qui sont dits, mais les problèmes liés à la sécurité des personnes, à la sécurité et à la circulation de personnes posent problème. Parce que pourquoi on a tout ce nombre de déplacés et pourquoi ces besoins s'expriment? Nous les avons à titre, moi je vais les classer à deux titres. Le premier, c'est d'abord, on a beaucoup de déplacés et nous avons un besoin accru à terme humanitaire à cause des problèmes de sécurité. Vous savez, madame, nous avons uniquement dans le Nord Kivu 63 groupes locaux. Ces 63 groupes locaux, il faut y ajouter des groupes autres locaux, des autres groupes étrangers qui sont de groupes des rebelles, soit du Rwanda et soit de l'Ouganda. Ça nous fait pratiquement 65 groupes au niveau de la province du Nord Kivu. C'est depuis pratiquement 1994 ou disons même 1996 que le Nord Kivu traverse l'insécurité d'un cycle à un autre. Et cela crée des besoins du jour le jour. L'État devrait, dans la logique, ne pas toujours avoir la stratégie de recourir ou d'avoir des ONG comme pour venir donner des solutions à nos problèmes, mais il faut des solutions structurelles, des solutions durables pour ou des solutions contre cette insécurité. Parce que si on arrivait à combattre l'insécurité, cela aura directement une incidence sur, n'est-ce pas, la baisse de ces déplacés, mais aussi la baisse de ces personnes à besoins humanitaires. Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas facile pour nous de parler, n'est-ce pas,
de cette journée mondiale à terme humanitaire sans pour autant parler de ce qui se passe à Beni. Vous savez que Beni est devenu l'oubliette, les Zouhou est dans l'oubliette ou est devenu la grande oubliette de la République démocratique du Congo à terme d'intervention humanitaire.
Vous avez nous suivi le ministre qui se trouve en ce moment au Nord Kivu. Vous l'avez suivi, il a dit que Beni est prioritaire. Il va descendre à Beni pour voir comment on peut arriver à aider tous ces déplacés qui se trouvent dans le territoire de Beni.
Non, je suis vraiment solidaire avec le ministre. Je sais qu'il est animé de bonnes intentions, de bonnes volontés. Mais lui-même venait de le dire qu'il se pose un problème de moyens. Et vous-même, vous savez, l'état de la trésorerie de notre pays aujourd'hui, je ne vois pas comment cela va se réaliser dans deux jours. Vous imaginez par exemple à cette trésorerie, il y a eu des crues terribles qui ont fait partir le maison, qui ont fait partir des ponts et des champs ont été dévastés par cette crue et tout, dû à une grande pluie et qui s'était abattue dans le secteur Renzori. Et jusqu'à présent, ces personnes sont, dorment sous la belle étoile sans aucune intervention humanitaire. Et alors que le problème est déjà posé au niveau du gouvernement. Moi, je crois que au-delà, n'est-ce pas, de problèmes de moyens, au-delà de voir ou de vouloir résoudre le problème humanitaire à terme d'intervention financière, je crois qu'il faut envisager un autre mécanisme.
Quel mécanisme, par exemple?
Ce qui se passe, par exemple, souvent en Europe. Nous voyons, parce que pour venir en aide à des personnes qui sont à besoin, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de moyens. Mais il faut simplement avoir la volonté. Il faut avoir ces sacrifices. Par exemple, vous êtes à Beni, vous êtes à Butembo, vous êtes à Lubero, vous êtes même, quand on peut arriver même dans Walikale, et très rarement, vous trouvez les camps des déplacés dans ces entités-là. Donc, même quand il y a des déplacés, ces déplacés vivent dans des maisons des personnes. Alors, je crois que le gouvernement et notre gouvernement devraient réfléchir sur un mécanisme de collecte de biens physiques. Un mécanisme qui permettrait à ce que les Congolais puissent participer directement, n'est-ce pas, à une assistance humanitaire. Parce que je crois qu'en attendant qu'il y ait un fonds humanitaire qui soit créé, on peut créer un mécanisme, mais là, il faudra que la gestion soit transparente. Comme par exemple ce qui a été fait pendant le confinement. Vous avez vu pendant le confinement, il y avait un élan de solidarité. J'ai vu par exemple ici à Kinshasa, comment il y a eu des stars, des grandes stars, il y a eu des personnalités, il y a eu d'autres personnes animées de la digne bonne volonté et qui étaient parvenues, n'est-ce pas, à défalquer sur les revenus quelque chose pour, n'est-ce pas, amener cela ou attribuer cela à des personnes déplacées. Donc je crois que le gouvernement devrait réfléchir sur un mécanisme local. Parce
Merci.
Que ce que nous ignorons souvent, c'est que les humanitaires viennent aussi nous distribuer des biens qui sont collectés dans leur pays. Et donc je crois que nous devons, et c'est même ce que je jette au ministre des Affaires humanitaires avec qui nous sommes, je crois qu'il faut qu'ils réfléchissent sur un cadre particulier qui permettrait à chaque Congolais d'avoir cet esprit et de participer directement, n'est-ce pas, à des actions humanitaires.
Merci
dans notre
Paul
pays.
Mouindo, docteur Augustin Kapika, directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, une ONG qui collabore avec le HCR dans le domaine humanitaire dans le Grand Équateur, l'ex-Bandundu et l'espace Kasaï. Docteur Augustin Kapika, quelle est la situation dans ces provinces où votre ONG travaille?
Ok, merci beaucoup madame, merci. Si vous permettez un rectificatif, nous sommes une ONG nationale de droit congolais. Nous existons depuis plus de 23 ans et nous collaborons avec le HCR bien sûr, le Fonds humanitaire, le PAM, l'UNICEF, le PNUD, l'OIM et le PIT. Nous collaborons avec pratiquement tous les systèmes des Nations Unies. Alors, aussi, nous ne sommes pas seulement dans l'espace de l'Équateur, des Grands Bandundu, comme vous le dites. Nous sommes plutôt partout dans tout le pays. Madame, je vous informe que lors de la grande crise de Kamwenem-Tsapu, Nous étions la seule ONG en 2015-2016 d'avoir piétiné l'espace Kassai. Nous étions à Tchikapa sous la grande crise et c'est nous qui avions généré les statistiques.
Donc, merci, nous sommes... docteur.
Voilà. Alors, moi, madame, dans tout ce qui vient de se dire, moi, j'aimerais vous dire ceci. Il faut que dans ces pays, que chacun puisse faire son travail. Que le gouvernement, lors des crises, s'il y a des crises, s'il y a des calamités, s'il y a des aides d'urgence, ce n'est pas au gouvernement d'aller sur terrain et exécuter directement les crises. Dans tous les pays du monde, il y a des crises. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va là-bas pour travailler. Le gouvernement utilise des ONG de son pays. Nous, ici, quand nous avons des crises, les Américains, à travers l'USAID, ils nous aident. Les Français, à travers des ONG françaises, etc., ils nous aident. Les Médecins Sans Frontières et autres que vous connaissez bien. Mais ici, chez nous, s'il y a une crise, c'est le gouvernement qui prend l'avion, qui va là où il y a la crise, pour distribuer des sacs ou de quoi. Ce n'est pas ça, seulement l'aide humanitaire. Il faut qu'on utilise, nous, les ONG qui sommes là, les ONG nationales, nous devons descendre sur terrain pour intervenir pour les crises. Nous connaissons bien les méthodes d'intervention pour sauver la population dans telle ou telle autre crise. Et si le gouvernement fait de ça à travers les ONG, le gouvernement a les moyens de contrôle. Il peut contrôler les ONG, demander le compte, comment ça a été fait. Mais le gouvernement débourse l'argent, c'est le même gouvernement qui s'en va sur terrain et qui trop de bruit à la télévision, voilà, ils ont aidé pour ceci. C'est là, mais en réalité, sur terrain, nous qui sommes sur terrain, zéro madame, il n'y a rien.
Mais docteur Augustin Kepika, le fait de voir un membre du gouvernement ou une délégation gouvernementale descendre dans des zones où il y a des conflits ou des problèmes de déplacés, d'insécurité alimentaire, ça réconforte un peu la population.
Oui,
la population
tout à fait. Oui,
se
ça,
dit que nous ne sommes pas abandonnés.
Oui, pour réconforter, oui. Ça, c'est le travail de l'État, le travail du gouvernement. Mais pour aider, c'est...
Pas seulement réconforter, mais aider aussi, docteur Augustin Kepika.
Mais aider à travers des structures que le gouvernement a, la société civile, les ONG. Pas directement le gouvernement pour aller aider. Le gouvernement, il sort l'argent, il est jugé parti, et il va aider. C'est là que nous avons beaucoup de problèmes. Parce que l'aide pose problème sur terrain. Quand vous allez, la population vous dit qu'ils n'ont rien reçu. Et c'est grâce aux ONG, au système des Nations Unies, et aux assistances qu'ils amènent, le fonds humanitaire, les autres, PAMH, UNICEF et autres, et PNU, que nous sommes sur terrain, nous essayons d'aider notre population. Quant à l'autre volet, le volet de l'insécurité, nous n'entrons pas dedans. Ça, c'est l'État et le gouvernement, c'est là qu'il doit nous aider vraiment à sécuriser le pays pour que nous puissions facilement aider notre population, arriver à assister cette population qui a tant souffert. La population souffre sérieusement, madame. Nous sommes sur terrain, dans le fin fond, où parfois personne n'arrive. Et nous, nous sommes là, nous essayons d'assister notre population. Notre gouvernement doit nous faire confiance. Et ce fameux fonds humanitaire doit réellement exister, ça doit voir le jour. On avait proposé à l'époque, on a dit que le fonds humanitaire puisse prévenir ne fût-ce que des petits prélèvements, soit dans la vente du carburant, soit, je ne sais pas moi, dans quelle vente encore, tout ça, et qu'on constitue même le fonds humanitaire, même une banque humanitaire, s'il le faut, pour assister notre population. Et aussi longtemps que cela n'est pas fait, ça va continuer à poser problème. Et on doit comprendre que à part le problème que nous avons en interne, effectivement, il y a des causes aussi qui sont externes. Nous sommes entourés de 9 pays. À chaque fois qu'il y a une guerre ou qu'il y a, je sais pas moi, une crise humanitaire chez le voisin, nous en souffrons. Nous sommes en train de souffrir et toute la crise à l'Est, c'est à cause de la grande crise qui a eu au Rwanda. La grande crise du Rwanda, jusqu'à présent, nous continuons à souffrir. Mais nos autorités ne veulent pas mettre le doigt là où ça fait mal. Il faut toucher, prendre le taureau par les cornes et résoudre le problème de la crise. C'est venu provoqué par le voisin, la crise continue jusqu'à présent. C'était d'abord le nord Kivu, etc. Maintenant, c'est le Grand Nord et Ituri, on n'en parle plus. Madame, ça ne va pas. Et cela empêche même l'intervention des humanitaires.
Docteur Kapika, il y a Évariste Kabadi depuis Kananga qui pense que la bonne assistance humanitaire n'est pas la distribution des vivres, mais c'est doter la population des intrants agricoles pour la rendre autonome.
Mais je suis d'accord avec vous, madame. Il y a l'actuel secrétaire général des Nations Unies, quand il était au HR, il nous avait dit, une fois, il dit, le développement commence par les humanitaires. Les humanitaires, quand ils sont sur terrain, c'est un début de développement. Quand il y a un pont qui a été abîmé, ils doivent aller assister, ils arrangent le pont. Quand les gens, les maisons ont été brûlées, ils leur font des cages, pour que les gens puissent vivre. Ils amènent l'eau à la population. Donc, je suis d'accord avec votre auditeur qu'effectivement, il faut amener les outils aratoires, il faut amener l'eau à boire, il faut amener des médicaments pour soigner cette population, il faut leur construire des abris et il faut les encadrer et leur donner des moyens de survie.
Monsieur le ministre Steve Mbikayi, les auditeurs sont nombreux à appeler, envoyer leur réaction. On va prendre pour vous, monsieur le ministre, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Grâce Kalaki, ville province de Kinshasa. L'assistance alimentaire est une mission première des autorités congolaises. L'État congolais doit valoriser le secteur agricole en mettant en valeur nos terres afin de subvenir aux besoins alimentaires des Congolais. Se contenter toujours d'aide humanitaire, la RDC devient un État mendiant et ça justifie la faillite de l'État.
Monsieur le ministre.
Oui, je pense qu'on ne peut pas dire que quand nous sommes assistés, nous venons à un État mendiant. Dans le monde entier, quand il y a catastrophe, d'autres pays, n'est-ce pas, des Nations Unies, interviennent pour assister. On l'a vu même avec le Liban, comme partout ailleurs. Mais je suis d'accord avec l'auditeur pour dire que nous devons valoriser l'agriculture. Vous avez suivi la fois passée, il y a un grand projet d'agriculture qui a été adopté par le gouvernement. Un programme trop ambitieux qui, dès qu'il va être réalisé, eh bien, nous pourrons en tout cas faire face à cette crise alimentaire dans le pays. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je peux en profiter aussi pour répondre un peu aussi à ceux qui ont parlé après moi.
Exactement.
Notamment, n'est-ce pas, à l'ONG qui vient de faire tout à l'heure. Je suis bien d'accord qu'il y ait une collaboration, n'est-ce pas, entre le ministère, le gouvernement et les ONG. Dans le cadre d'assistance alimentaire, et qu'on puisse passer par eux, c'est pas mal. Mais il y en a combien de ONG là ? Ça posera un problème de savoir avec qui on doit traiter, en fait. Moi, je crois qu'il faudrait qu'il y ait aussi un contact entre toutes les ONG, qu'on puisse travailler avec elles, pour savoir quand il y a une aide, comment est-ce qu'on peut procéder, pour éviter qu'on soit accusé d'être partisan, d'être avec les uns, pas avec les autres. Mais aussi, ce n'est pas aussi interdit que nous puissions intervenir dans le gouvernement. On a vu, il n'y a pas longtemps, il y a une délégation de l'Union européenne qui est arrivée ici, composée des ministres, et puis des commissaires européens qui nous ont amené des aliments dans l'aide humanitaire, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ça peut se faire aussi, mais je suis bien d'accord avec ce qu'il a proposé. Je crois qu'on va créer un cadre de consultation avec les ONG pour y arriver.
Il y a aussi le député Paul Mouindo qui a fait des propositions pour que l'État arrive à assister efficacement les personnes qui ont besoin d'aide humanitaire. Il a parlé d'élan de solidarité.
Oui, en passant, je salue l'honorable Mouindo, d'ailleurs avec le caucus député d'Orkivu, même ceux de l'Ituri, on s'assiste mutuellement dans le processus de recherche de moyens pour veiller à subvenir aux besoins de tous se déplacer. Je suis d'accord avec lui, on peut bien le faire, mais je pense qu'on ne le fera pas tous les jours. Parce que se déplacer, donc, ont besoin de l'aide tous les jours. On peut organiser bien une collecte de fonds ou bien de denrées alimentaires de la population, mais je ne pense pas que ça puisse arriver au bout de ce besoin. C'est qu'il est essentiel et qu'on doit travailler plus pour créer les conditions de sécurité afin que cette ampleur de la crise puisse diminuer. Je crois que c'est ça le principal. Vous voyez, dans les provinces où il n'y a pas assez d'insécurité, eh ben, la crise n'a pas la même ampleur que Nord Kivu et puis que par exemple Ituri. Voilà, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'on doit pousser la population à être solidaire avec d'autres compatriotes. Mais je ne pense pas que ça puisse être suffisant pour arriver, n'est-ce pas, au bout de cette crise.
Paul Mouindo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Kengaka Bongo patient dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. La bonne assistance humanitaire n'est pas la distribution des vivres, mais plutôt la dotation des intrants agricoles pour rendre les gens autonomes. Seul le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, peut trouver solution à ces problèmes. Nous avons tant de milliers de kilomètres de terres arables. Pourquoi alors compter sur les aides humanitaires? Si la volonté y est, avec ses potentialités, la RDC peut devenir même un partenaire de PAM dans l'assistance humanitaire dans d'autres pays. Les Français disent, si tu me donnes un poisson, je le mangerai en un seul jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai pour toujours.
Paul Mouindo.
Oui, merci bien. Je comprends bien la proposition de l'auditeur qui est à Lubumbashi, monsieur Patient. En fait, je crois qu'il faut d'abord comprendre que lorsqu'on parle des besoins humanitaires, c'est essentiellement des besoins d'urgence. Imaginez-vous qu'il y ait catastrophe naturelle et que les maisons des gens soient totalement emportées par soit une pluie, soit le volcan, soit je ne sais pas moi, autre chose. Mais vous n'allez pas amener à ces gens, vous n'allez pas amener à cette population, n'est-ce pas, le semences, non. Mais il faut d'abord résoudre leur problème qui est un problème circonstancié. Et c'est dans ce sens-là que l'intervention de patients, en fait, nous plonge dans une politique humanitaire durable, une politique humanitaire durable qui permettrait à ce que l'État, par exemple, à un pourcentage donné, puisse dire on doit toujours avoir un pourcentage, par exemple, de 5% du budget ou 10% du budget, qui devra, n'est-ce pas, être réservé à la réponse ou qui devra être considéré comme réponse humanitaire du gouvernement. Et donc, sa proposition entre dans ce cadre-là. Et c'est aussi une nécessité pour notre pays. C'est vrai, nous ne pouvons pas du tout rester un État qui devra chaque fois bénéficier de l'assistance des autres. Nous devons développer des capacités qui permettront à ce que, à un certain niveau, nous soyons capables, ne fût-ce qu'à un pourcentage acceptable, de répondre tant soit peu, n'est-ce pas, à nos besoins, d'être le premier intervenant à cas de besoin. C'est en fait ça l'idéal. Mais comment y arriver? Il faut des stratégies, il faut que le gouvernement puisse réellement être engagé dans cette logique-là.
Docteur Augustin Kapika, il y a Gilbert Boalindou-Bougué, voilà, qui nous écrit depuis Bukavu. Il dit ceci, pour éviter cette situation honteuse des crises humanitaires, l'État congolais doit prendre conscience de sa responsabilité en créant des emplois, promouvoir la culture et l'entrepreneuriat des jeunes, traiter dignement ses agents et appliquer le principe d'un partage équitable des ressources du pays en évitant qu'une seule couche de la population s'accapare des richesses du pays. En fait, cet auditeur propose déjà, il répond déjà à la question de notre deuxième partie de l'émission, Dr. Augustin Kapika, comment créer des conditions pour éviter ces crises humanitaires en RDC?
Oui, merci madame. Si vous permettez, j'aimerais juste donner un élément à son excellence, monsieur le ministre, avant qu'on passe à la deuxième partie. Je voulais lui dire que les ONG qui interviennent dans les humanitaires sont faciles à identifier. Il suffit de s'approcher un peu du système des Nations Unies, de voir avec quelles sont les ONG qui sont régulièrement auditées d'ailleurs et qui sont crédibles, avec lesquelles l'État, auquel l'État peut faire confiance, et même s'approcher de l'Union Européenne, etc. Donc, facilement, il aura une liste exhaustive. Madame, pour comment faire pour éviter que les crises reviennent? Une fois de plus, et là, il faut que nous, on situe les problèmes même à plusieurs niveaux, à deux ou trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau sécuritaire. Pour que les crises ne reviennent pas, il faut que notre gouvernement fasse son travail. Il faut qu'il sécurise le pays.
hein, que ce soit le président de la République au niveau de l'Assemblée, tous prêtent serment pour garantir la sécurité au peuple congolais. Il faut que cette sécurité soit totale. Et nous sommes d'accord parce que nous avons suivi l'actuel président et en a fait son bâton vraiment de pèlerinage. Et je pense que ça va arriver et il va sécuriser le pays. Et là, déjà, la crise, une partie de la crise, des solutions sera trouvée pour éviter des crises. Deuxièmement, madame, il faut que l'État aussi soit vraiment responsable dans l'aménagement du territoire. Il faut que ce ministère que j'ai vu qu'il existe de l'aménagement du territoire fasse réellement son travail. Parce que madame, à chaque fois, vous allez voir, maintenant nous étions en saison 16, etc., je n'ai vu aucun chantier au niveau de Kinshasa ne fût qu'ici. Commencer, démarrer avec les routes ou des curations des caniveaux ou le corriger à gauche, à droite, j'ai vu un peu vers l'hôtel de ville. Mais vous allez voir quand les pluies vont commencer. Ça sera encore des calamités, tout le monde en train de crier. Le gouvernement fait son travail de ce côté-là. Mais le grand problème, madame, est que nous devons tous savoir, que même le ministre qui m'écoute, nous devons, le gouvernement doit être responsable et résoudre correctement les différents conflits qui apparaissent dans notre pays. Et vous allez voir que la plupart des crises ont comme base la mauvaise résolution des conflits. Ils résolvent difficilement un conflit et ça régénère. Ça devient une guerre, ça devient une crise régionale, etc. Et les humanitaires, etc., avec tout ce que vous connaissez. Donc moi, je pense que ça, c'est très important. Mais pour revenir à Gilbert, la question qu'il pose, oui, ça, c'est une question qui n'a rien à voir, à mon avis, avec les humanitaires. Avec les humanitaires, directement, tout le monde, plutôt l'État, le gouvernement doit faire son travail. Le gouvernement doit réellement mettre les gens au travail et ça, c'est la tâche quotidienne du gouvernement. Mais quand il y a une crise qui apparaît, là, on ne va pas dire qui est chômeur là-bas et qui n'est pas chômeur, mais c'est tout le monde qui est dans la crise qui doit être assisté. Mais je suis d'accord avec lui qu'il faut que les gens trouvent du travail, qu'on crée du travail pour les gens. Je veux répondre un peu aussi...
Rapidement, docteur Kapika.
Oui, rapidement, ce qui était posé comme question à l'honorable. Oui, c'est vrai. Effectivement, les gens pensent que quand il y a crise, il faut directement amener le où et machette. Non. Quand les gens sont en crise, ils ont tout abandonné. Ils n'ont ni habit, ni valise, ni nourriture, rien du tout. Donc, il faut pallier aux plus urgents d'abord, leur donner un peu de l'eau à boire, les médicaments à manger, en attendant qu'on leur donne le où pour les cultiver. Ça, c'est ce qui s'est fait et je pense que c'est la bonne procédure. Bon, madame, donc, voilà.
Merci, docteur Augustin Kapika et Afikiri Tchomba, depuis Bukavu, qui dit ceci: dans un pays où il y a des milliers de terres arables, il est inconcevable d'assister à une crise alimentaire. C'est vraiment humiliant parce que le Congo est capable de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Pourquoi pas nourrir toute l'Afrique? Monsieur le ministre, qu'est-ce que le gouvernement fait pour créer des conditions afin d'éviter des crises humanitaires en RDC?
Non, d'abord, je suis d'accord avec cet intervenant de davantage investir dans l'agriculture. Notre gouvernement est très conscient de ça et a mis sur pied un programme trop ambitieux qui a été défendu dernièrement au Conseil par mon collègue de l'agriculture et qui a été adopté. Et je pense que dans 2-3 ans, nous pourrons, n'est-ce pas, diminuer simplement cette crise alimentaire dans notre pays. Comme a dit aussi mon prédécesseur, je crois que pour arriver à diminuer cette crise humanitaire au pays, nous devons d'abord plus investir aussi dans la sécurité. Si nous arrivons à mettre fin à ce phénomène de groupes armés dans l'est du pays, je crois que nous pouvons réduire de 80% cette crise humanitaire au pays, qui fait qu'il y a environ 5 millions de placés internes. C'est énorme. C'est plus que la population des pays tels que le Gabon et 23 pays mis ensemble. Alors c'est pas possible que seul le gouvernement puisse faire face à ces situations. C'est comme ça qu'on accepte d'avoir quand même une assistance de la part des partenaires étrangers. Je suis aussi bien d'accord qu'il faut aménager les territoires parce que, et là nous interpellons le service d'affaires foncières, mais aussi le ministère d'urbanisme. Parce que on fait lotissement n'importe où, les longs de rivières, du fleuve, Et quand il y a les pluies qui tombent, il y a toujours beaucoup de maisons qui sont emportées, il y a des gens qui meurent, en 18. Je pense qu'il faudrait que ces côtés-là, on arrive quand même à mettre de l'ordre. Mais si on doit prévoir, vous voyez les érosions ici dans nos villes, ces érosions donc emportent souvent des maisons. Nous devons prévoir pour déplacer tous ces gens qui sont, n'est-ce pas, à cause des érosions, et puis le combattre pour éviter de courir derrière de catastrophes. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à faire, hein. Je vais me limiter là. Il y a en tout cas beaucoup à faire pour arriver à mettre fin à cette situation déplorable.
Merci Steven Bikaï. Je rappelle que vous êtes ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. On va considérer cela comme votre conclusion. Paul Mouindo, comment créer des conditions pour éviter ces crises humanitaires?
Oui, d'abord dans un premier temps, il faut que la stabilité du pays soit un objectif crucial. Et le gouvernement doit tout faire pour stabiliser et amener la paix. Et vous savez, Madame Kelly, que toutes les populations qui sont tuées à Beni, eux-mêmes, au-delà du fait qu'elles sont peu proposées, et lorsqu'elles sont tuées, elles se prennent à charge à terme même des cercueils. Même les simples cercueils ne sont même pas donnés par le gouvernement congolais. Donc je crois qu'il faut une bonne stabilité, d'abord sur le plan de la paix, cela permettra à ce qu'on puisse éviter des crises. Il faut aussi éviter la discrimination à terme d'intervention humanitaire. J'ai toujours dit que ce n'est pas acceptable. Lorsqu'on est premier ministre et qu'il y a des dégâts dans votre province, vous pouvez voir facilement des interventions arriver dans ces provinces-là, parce qu'on a occupé un poste élevé donné et qu'on a une possibilité de décider. Et donc je crois qu'on doit éviter la discrimination d'intervention humanitaire, surtout pour ce qui concerne le gouvernement. Il faut aussi arriver à procéder à une harmonisation à terme d'intervention entre le gouvernement et les ONG. Parce que des fois, dans beaucoup de réunions, on apprend que la RDC a obtenu par exemple 50 millions ou a consommé autant de millions d'interventions humanitaires, mais dans les faits, lorsqu'on vient vérifier, on se réalise que peut-être cela n'est pas visible. Donc je crois que le gouvernement, ici j'interpelle le ministre des Actions humanitaires, il doit réellement avoir un œil sur toutes ces interventions des ONG qui se font ici et là. Et là, il faut aussi arriver à responsabiliser les acteurs ou les autorités locales dans des entités territoriales décentralisées, afin que ces dernières aient aussi un œil direct sur tout ce qui est comme intervention au niveau de notre pays.
Merci Paul Mouindo, député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Vous êtes président du caucus des députés du Grand Nord et également cadre du parti politique RCD-KML. Docteur Augustin Kapika, directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, une ONG qui collabore avec plusieurs agences des Nations Unies. Votre conclusion par rapport au débat de ce soir?
Ok, merci madame. Il faut que chacun fasse son travail. Les ONG doivent faire leur travail. Le problème, c'est que tout le monde pense qu'en voyant parfois des ONG, des mallettes, comme on les appelle, les ONG qui n'ont pas aucune assise, ils se disent, bon, les ONG, c'est comme ça. Non, il y a des ONG dans notre pays qui sont très sérieuses, qui peuvent abattre un travail, et le pays aussi, le gouvernement va apprécier. Que les ONG fassent leur travail, le gouvernement les mette au travail. Imaginez-vous, madame, nous sommes à notre 23e année et même plus dans ce pays. Nous travaillons toujours avec les fonds des agents des systèmes de l'information. Jamais un seul franc du gouvernement. Et que chaque parti fasse son travail, qu'il ait réellement un de fonds humanitaires qui s'est créé et le pays pourra faire face à tout ça.
Merci docteur Augustin Kapika, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Guy Maté, Dona Madimba, sous la supervision d'Axel Goncho. Merci à Paul Badianyama qui était à la prise de son, présentation et coordination Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.